Le petit coq noir et Jacques chez les poissons. Extrait de Conte de tous les pays. Le petit coq noir. C'était de grand matin. La servante du docteur venait d'ouvrir la porte du poulailler. Les poules se précipitèrent dehors, car elles étaient éveillées depuis quelque temps déjà, et il n'y a rien qui plaise autant à une poule que d'aller respirer l'air vif du matin. Seules, les pintades que la femme du docteur avait reçues récemment en cadeau restèrent sur leur perchoir, ayant l'habitude de se lever tard, comme de belles grandes dames gâtées qu'elles étaient. Le vieux coq et la poule blanche sortaient toujours les premiers du poulailler. Le vieux coq était encore fier et superbe malgré son âge. La poule blanche se recommandait par une extrême distinction d'allure et de plumage. Il y avait 3 mois que 10 petits poulets étaient éclos sous son aile. Le coq, excellent père de famille, leur cherchait toujours les meilleurs grains. Mais cette fois, il ne descendit pas l'échelle d'un air dégagé comme c'était sa coutume. Il poussa 3 appels brefs et courroucés, dont la poule comprit le sens tout de suite, car elle répliqua d'un ton soucieux. « Hélas, notre petit noir n'est pas rentré hier à la nuit. Qui sait si la fuine ne l'aura pas attrapé ?»« Ce serait bien fait !» dit en éclatant le papa coq furieux. Mais au fond, il était inquiet et plus malheureux qu'il ne voulait l'avouer. Les autres poules se mirent à caqueter tout bas, entre elles, d'un air pénétré. Tout le monde avait toujours dit qu'il arriverait malheur au petit coq noir. Jamais il n'avait rien fait comme les autres. Ses frères chantaient déjà fort agréablement « Kikiriki » qu'il s'obstinait à pousser d'une voix enrouée un abominable et vulgaire « Cocorico ». Sa mère désespérait de le convertir à une méthode de chant élégante et noble. La poule blanche se promenait-elle avec ses poussins en bon ordre, c'était toujours le noir qui sortait des rangs pour fouiller du bec un tas de fumier étranger, jusqu'à ce que quelqu'un vînt le chasser à coups de fourche. Même pour sortir de l'œuf, il n'avait pas su piquer la coquille selon les règles établies. Il s'était échappé de sa prison si impétueusement que l'œuf, ayant roulé par terre avec lui, avait failli l'étouffer. Oui, la mère n'avait eu de sa part que des soucis et des humiliations. Et pourtant, elle regardait aujourd'hui d'un œil humide, plein de sollicitude, si son cher noireau n'arrivait pas. Le déjeuner des poules était presque achevé quand des cris plaintifs sortirent de la maison du docteur. Et l'on vit s'élancer par une fenêtre ouverte, Maître Noireau à demi-plumé. « Le voici, le voici !» cria tout le poulailler en cœur. Le vieux coq s'avança pour adresser au vagabond une verte réprimande, mais le triste état où il le vit lui fit pitié. Il se borna donc à dire « D'où viens-tu ?» Et Noireau se confessa en sanglotant, car il n'ajoutait pas à ses nombreux défauts celui de mentir. Il avoua que depuis longtemps, le poulailler lui semblait étroit, étouffé, obscur, qu'il trouvait indigne de lui ce logis dont s'accommodaient pourtant son père, sa mère et des personnes de haut parage telles que les pintades. En vain, lui avait-on affirmé que tous les gens de son espèce habitaient des cabanes semblables, souvent même moins commodes. Le jeune coq avait continué à rêver une installation plus conforme à sa grandeur. Ce rêve d'ambition avait pris un nouvel essor certains soirs que, du haut d'une échelle, il avait pu plonger ses regards envieux dans la chambre de Frédéric, le jeune fils du docteur. Il y avait là un serin apprivoisé qui se promenait librement et qui, pour le moment, gazouillait perché sur la pendule. Son sort fit envie au petit coq. Pourquoi un méchant serin serait-il logé dans une jolie chambre claire, tandis qu'il était réduit aux ténèbres du poulailler? Lui, qui était beaucoup plus grand et qui avait une crêle, tandis que les canaris n'ont qu'une huppe, tout au plus. Du sommet de l'échelle, il avait, la veille au soir, volé jusqu'à l'appui de la fenêtre, tandis que le reste de la jante emplumée rentrait tranquillement au gîte. Il s'était glissé dans la chambre déserte pour le moment. On ne s'aperçut pas de sa présence, car cette chambre était un cabinet d'études que Frédéric n'habitait pas la nuit. Mais les quelques heures que Noirot passa dans ce qu'il appelait un palais ne furent pas aussi délicieuses qu'il l'avait supposé d'abord. Cette chambre, au plafond élevé, n'était pas chaude comme le poulailler. Il n'y trouva aucun perchoir et dormit fort mal sur une table. De bonne heure, Frédéric, qui couchait dans la pièce voisine, fut éveillé par le fameux « Cocorico », parti d'un lieu où d'ordinaire il ne se faisait point entendre. Il courut voir ce qui se passait. Le coq, épouvanté, sauta de la table sur un siège, de là sur une commode, renversant du même coup l'encrier qui se brisa en mille pièces et couvrit d'un pâté gigantesque le devoir presque achevé de la veille. Colère de Frédéric. Il se mit à la poursuite du malfaiteur, le bloqua dans un coin, le saisit par les ailes et faillit lui tordre le cou. « Je te ferai rôtir !» rugissait-il. « Un devoir si long, effacé et perdu, je devrais te faire rôtir tout de suite !»« Qu'y a-t-il donc ?» demanda la petite Henriette, attirée par le bruit. « Il y a que je vais faire mettre à la broche ce maudit coq noir. Mon thème est perdu, je le mangerai tout entier, tu verras. » En vain, la bonne petite Henriette intercéda-t-elle pour le coq. À la fin, elle usa de ruse. « Avant de faire rôtir un poulet, on le plume, » dit-elle gravement. « C'est vrai, » reprit son frère. « Je le plumerai donc. » Par bonheur pour le pauvre coq, Frédéric poussa la méchanceté jusqu'à essayer de le plumer tout vif. L'excès de la douleur rendit Noirot capable d'un suprême effort. Il se débattit, joua du bec, bref, échappa aux mains de son bourreau. Et, la petite Henriette lui ayant ouvert charitablement la fenêtre, il atteignit enfin sa basse-cour natale. Dans quel état ? Nous l'avons vu. Depuis lors, le petit coq noir fut condamné par ses parents à rentrer chaque soir le premier au poulailler. Il obéit, étant devenu humble et penaud depuis la perte de ses plumes. Mais lorsqu'elles commencèrent à repousser, il reprit de l'aplomb et la basse-cour l'ennuya bientôt autant que jamais. « Comme les hirondelles sont heureuses !» soupirait-il en voyant les oiseaux de passage fendre l'air d'un vol rapide. Ce doit être tout autre chose de nicher libre sur un arbre que de languir captif dans un poulailler. Sûrement, le bonheur est dans la forêt. Au fait, pourquoi n'irais-je pas dans la forêt? Je volerais jusqu'aux cimes tout aussi bien qu'un autre. Le soir même, Maître Noirot réussit à rester en arrière lorsque sa famille rentra au poulailler. Et passant par un trou à travers la haie, il atteignit, non sans effort, un arbre peu élevé, en haut duquel il cria « Cocorico !» s'imaginant être un personnage. Mais qu'il faisait froid et humide sur cet arbre, les branches trop flexibles étaient bien incommodes. N'importe, Maître Noirot s'endormit avec l'insouciance de la jeunesse et eut les plus beaux rêves. Il rêva qu'il s'envolait à tire-d'aile dès l'aube pour parcourir le monde. Malheureusement, tandis qu'il rêvait ainsi, le gros chat rouge du voisin, un terrible chasseur, grimpa sans bruit à l'arbre et saisit l'imprudent par la nuque avant qu'il eût entrouvert l'œil. Ce fut un rude assaut, mais un jeune coq est brave, il est fort, il a bec et ongles pour se défendre. Le chat ne put emporter qu'un petit bout de l'aile de la victime, dont il croyait ne faire qu'une bouchée. La leçon fut suffisante cependant pour dégoûter Noirot des mœurs de ces rois de l'air, les petits oiseaux, hirondelles et autres. Pendant plus d'un mois, sa mère le trouva docile et soumis. Elle reprit espoir. Mais il arriva qu'un matin, l'aventureux Noirot rencontra une bande de canards qui allaient, en se dentinant d'une patte sur l'autre, du côté de l'étang. « Où courez-vous » demanda-t-il avec sa curiosité ordinaire. « au bain !» répondirent les canards. « Est-ce vraiment bien agréable de plonger ?»« Rien n'est plus amusant, l'eau est d'une fraîcheur délicieuse. On trouve au fond des vers si délicats, toutes sortes de friandises. » La gourmandise du jeune coq s'éveillant à ces mots. « J'ai grande envie d'aller au bain, moi aussi, » dit-il. Mais la mère vigilante l'avait entendu. « Petit sot !» gloussa-t-elle. « L'eau n'est pas faite pour nos pattes, tu y trouverais la mort, entends-tu? Je t'en prie, n'y va pas !» Le petit coq pensa en lui-même avec arrogance. « Ces vieilles gens s'imaginent tout savoir, tant pis pour eux s'ils n'ont pas pris de bonne heure l'habitude de nager. Mais je veux essayer, ne fût-ce qu'une fois. Les canards sont des oiseaux comme nous et n'ont pas peur de se mouiller. Je vais leur demander une leçon. » Crac ! Voilà notre petit coq qui plonge dans l'étang dont les canards fendaient l'onde avec une aisance parfaite. Si une gardeuse d'oie ne s'était fût trouvée là, fort à point, pour le secourir, il était noyé. Pauvre fou. Mouillé, transi, l'œil glauque, le bec ouvert, Noirot avait plus piteuse mine encore qu'au temps où il s'était promis de mener la vie fastueuse d'un serin apprivoisé ou la vie indépendante d'une hirondelle. Sa mère le jugea suffisamment puni. Elle l'engagea, sans trop le gronder, à sécher ses plumes au soleil. Ce qu'il fit, poursuivi par les quolibets de la basse-cour. Sera-t-il corrigé cette fois ? Il faut l'espérer pour lui, car tout à l'heure, Catherine, la cuisinière du docteur, disait, en aiguisant son couteau, « Voilà un vaurien qui nous donne par trop de mal. J'ai envie de mettre fin à ces continuelles incartades. Ça serait déjà fait, ma foi, s'il n'était pas si maigre. » Jacques chez les poissons. Jacques pêchait et les lutins malicieux de la rivière lui jouaient mille tours. Tantôt, il détachait de son hameçon l'amorce appétissante pour la remplacer par une algue limoneuse. Tantôt, il retenait sa ligne au fond de l'eau si fortement qu'il ne pouvait plus la ravoir jusqu'au moment où, bang, le fil cédait pour s'envoler parmi les branches des arbres où il restait accroché. D'autres fois, encore, les drôles se suspendaient aux bouchons et y imprimaient de petits frémissements si semblables à ceux que produit le poisson quand il mord que le pauvre Jacques était dans une alternative perpétuelle d'espérance et de désappointement. Il en avait la fièvre. Tout à coup, sous l'œil même de Jacques, bondit un gros poisson. Un poisson superbe qui, avant que le petit pêcheur eût crié « Oh !», retomba dans la rivière en y formant des ronds. Jacques oublia en ce moment que l'on ne doit jamais s'appuyer au flanc d'un bateau. Dans sa curiosité de revoir un si beau poisson, il se pencha. Il se pencha si bien que le bout de son petit nez curieux effleura l'onde fraîche. Sans doute, les lutins n'attendaient qu'une occasion. Cette fois encore, l'étourdi n'avait pas eu le temps de crier « Oh !» qu'il l'avait pris par ce petit nez stupide et que ses jambes rondelettes battaient l'air de la belle façon tandis que le reste de sa personne disparaissait sous l'eau. Il y laissa, je me demande si ce fut pour lui une consolation, un rond encore plus large que ne l'avait fait le gros poisson. Grande rumeur parmi la gent à nageoire. Elle se dispersa si bien que Jacques eut, pendant quelques minutes, le fond de l'eau à lui tout seul. « Pardon !» bégaya-t-il enfin, couché tout de son long sur le lit de sable fin, le plus doux qui se put imaginer. Personne ne répondit, par la bonne raison que personne n'avait entendu. Bientôt, un goujon plus hardi que les autres vint tourner autour de lui, puis deux, puis trois, puis quatre, puis vingt, puis des centaines, le goujon est curieux de sa nature. « Je voudrais m'en aller, » dit Jacques d'une voix faible. « Il fait humide, je m'enrhume, et puis... j'avais mis ma cravate neuve, ma belle cravate bleue. Dans quel état elle doit être ?»« Vous ne vous en tirerez pas avant d'avoir vu la carpe, au moins. Tout le monde ici rend visite à la vieille carpe. Pensez donc qu'elle a près de 200 ans. »« Vraiment ?» dit Jacques. « Elle est encore plus vieille que grand-papa. Mais voilà l'heure du dîner, et comme nous aurons une friture de... » Il fut interrompu par un verron frétillant. « Ne vous a-t-on jamais appris qu'il fallait ménager les susceptibilités d'autrui, jeune homme ? Parler de friture devant nous ? Fi, quelle indélicatesse ! Lisez cela, s'il vous plaît, venez plutôt à la noce. Il y a chez nous un grand mariage aujourd'hui, le mariage d'une jeune perche délicieuse. Elle prend un époux au-dessous d'elle, un barbillon, un simple barbillon. Mais il est si dévoué, si attentif. Tenez, confiez-vous à lui, c'est le meilleur être du monde. Le voyez-vous là-bas, dans ce coin ? Le barbillon, roulé dans un lit d'herbe aquatique, se lissait la barbe à l'aide d'une de ses nageoires. Il avait l'air pensif. « Soit, » dit-il à Jacques, « je veux bien m'occuper de toi, gamin. » En parlant ainsi, il se déroulait et bâillait avec lenteur. « Je t'emmènerai voir la carpe, si tu veux. Qu'est-ce que tu as dans tes poches ?»«
Oh, rien. Un couteau à deux lames, un tire-bouchon, une lime à ongles, ah, un croquet, un vieux clou. Quoi encore ? Une toupie, un bout de ficelle et un sou.
C'est tout ?
Non, un crayon, le dé de ma sœur, un bout de cire à cacheter, un calepin... et une bille.
Avec cela ?
Rien, rien que des miettes.
Donne-moi les miettes et le croquet.
Merci.
C'est excellent, tu peux garder le reste. Par ici.
À propos, sais-tu nager ?
Un peu, mais non, pas quand je suis au fond de l'eau.
Bah, quand donc nages-tu alors ?
Quand je suis dessus donc.
Le barbillon daigna sourire.
« Prends ma nageoire gauche, petiot. »«
Pas ma queue, que diable, c'est mon gouvernail. »« Allons, en route. »
Les voilà partis. La carpe demeurait à quelque distance, au fond d'un trou, sous l'arche d'un vieux pont en ruine. L'endroit était solitaire et triste.
« Attention !» dit le barbillon en avançant. « Il ne faut pas t'attendre ici à des frivolités. »
« Je ne m'attends à rien de bon, » dit Jacques en frissonnant.
« C'est-à-dire, » ajouta-t-il, craignant d'être impoli, « c'est-à-dire que vous allez me montrer des choses très intéressantes, j'en suis sûre, mais je manque l'heure du dîner, voyez-vous, et on ne fait pas attendre une friture de gouge. »
Cette fois, il s'interrompit de lui-même.
« Ne te gêne donc pas, je t'en prie, » dit le barbillon. Il ne faut pas parler de friture devant des goujons, sans doute, mais un barbillon, qu'est-ce que ça lui fait ?
Nous sommes arrivés. Voici la carpe, la distingues-tu ? As-tu jamais rien vu d'aussi extraordinaire ?
Jacques dut regarder deux fois avant d'apercevoir autre chose qu'un tourbillon de vase. Quand il vit la carpe, elle lui parut grasse et lourde avec un air stupide. La physionomie du barbillon exprimait une si vive admiration qu'il garda pour lui sa façon de penser.
« Bonjour, monsieur, » dit la carpe d'une voix épaisse et d'un ton d'indifférence absolue. « Je mesure 2 pieds 2 pouces autour de la taille et je n'ai pas moins de 3 pieds de long. Mes nageoires ont 6 pouces, je pèse 37 livres. » Veuillez admirer la patine curieuse qui adhère à mes écailles. C'est un signe de ma grande antiquité. Vous admirerez l'anneau de cuivre qui fut passé dans mon nez par ordre de Sa Majesté Jules César en l'an 55. Je suis aveugle, messieurs. Au reste, je me porte bien. J'ai dû avoir beaucoup d'enfants, mais je ne sais plus où ils sont.
La plus légère offrande que vous daignerez accorder à une pauvre carpe sera reçue avec reconnaissance. » Ici, la carpe s'interrompit brusquement au milieu de son boniment qu'elle débitait avec volubilité. «
Eh bien, dit tout bas le barbillon, exécute-toi, elle attend ton offrande. »
« Est-ce que le bout de cire à cacheter suffit ?» demanda Jacques sur le même ton. « Donne-lui aussi le vieux clou et le dé de ta sœur, rien n'est perdu. Elle a une collection remarquable de souvenirs variés et ce sera un honneur pour toi par la suite d'y avoir contribué. »
Tandis que cet aparté avait lieu, la carpe s'était endormie. Le bruit des voix la réveilla cependant et elle se mit à réciter.
« Bonjour, messieurs, j'ai 2 pieds, 2 pouces, 2 tours de taille. »«
Nous le savons, c'est toujours la même société, » interrompit Maître Barbillon.
« Voilà tout ce que je puis vous offrir, » ajouta Jacques, tirant le clou, le dé et la cire à cacheter de sa poche.
« Et maintenant, » s'écria le Barbillon, « allons nous marier. Je m'entends, c'est moi qui me marie et non pas toi, méchant galopin. »
Jacques trouvait le barbillon bien familier, mais ce n'était pas le moment de se formaliser.
« Et après, je m'en irai ?» lui dit-il.
« Petite bête, comment, tu ne trouves pas délicieux d'être entrée dans le courant ? Connais-tu rien de plus joli que ce bouquet de joncs à ta gauche ? Nous approchons de la demeure de ma petite perche. »«
Mon Dieu !» dit Jacques en grelottant. « Comme l'eau coule dans mon dos et me chatouille, et comme nous allons vite !»
Parbleu, c'est le courant entre les piles du pont neuf. Voilà un pont, à la bonne heure. Il faut venir ici pour recevoir le courant en plein nez. Et quelle ombre fraîche!
Mais tous les gens de la noce sont déjà rassemblés, nous sommes en retard. Comme étranger, tu conduis la mariée. Cela t'oblige à des cadeaux, par exemple.
L'apparition d'un brochet, sa redoutable mâchoire entrouverte, fit tressaillir Jacques.
Sois le bienvenu, dit le brochet, et montre-nous tes cadeaux. Qu'apportes-tu avec toi ?
Un canif, une vrille.
Très bien, je sais, un de mes ancêtres en a jadis avalé une. Si tu n'as pas autre chose, nous nous en contenterons.
L'assemblée était nombreuse, et il n'y régnait aucun ordre. Pêle-mêle arrivaient les brochets, ceux-ci affamés naturellement et en grand nombre, des bancs de gardons à l'œil vif, des dards fins comme des aiguilles, des perches brillantes, du fretin à profusion. Les verrons argentés ne manquaient pas. On comptait que les brochets sauraient se tenir en cette solennelle circonstance. L'étanche frétillait auprès des brèmes. Il y avait aussi quelques truites saumonées qui eussent été l'ornement de la société sans leurs insupportables prétentions.
Jacques était poussé, bousculé de ci, de là. Il trébuchait, il heurtait les piles du pont, il était roulé par le courant. Enfin, la tête lui tourna si bien qu'il ne comprit plus rien à ce qui se passait. Quelle fut sa surprise lorsque la maman de la perche, une vieille dame courte et large, parla en ces termes.
Maintenant que la noce est célébrée, racontons, selon l'usage, quelques histoires de notre jeune temps. Ce sera une manière aussi agréable qu'instructive de passer l'après-midi. Commencerai-je pour encourager les autres ?
Il y eut un clapotement général produit par les bravos que les poissons décernèrent à la perche en s'aidant de la queue et des nageoires. L'eau était blanche d'écume. La narratrice, évidemment flattée, commença en ces termes. J'étais jeune alors et très agile. Si je pesais 2 onces, c'était tout au plus. Et quant à ma candeur, messieurs et mesdames, j'étais l'innocence même. Un jour que je prenais mon repas de midi, je sens tout à coup une douleur cuisante dans ma bouche. L'instant d'après, j'étais lancé en l'air. Un monstre me saisissait violemment. De nouveau, il me sembla qu'on m'arrachait le palais et puis je fus jeté sur l'herbe et abandonné ainsi. Dans quelle angoisse, vous le devinez, hélas. Mes souffrances physiques, quelque horribles qu'elles fussent, ne pouvaient se comparer à mes inquiétudes morales. Être enlevé à mes bons parents, à mes petites sœurs, ne plus les revoir, non, c'était impossible.
une pensée dominait en moi toutes les autres. Fuir, fuir! Moins pour me mettre moi-même en sûreté que pour pouvoir avertir les miens du terrible sort qui les menaçait peut-être aussi. Mais comment faire? Par grand hasard, le monstre qui m'avait pêché ne me surveillait pas. Debout, à quelque distance, il me tournait le dos. Je me dis qu'au moyen d'une série de culbutes, habilement dirigées, je regagnerais la rivière. Sans perdre de temps à réfléchir, je rassemblais mes forces et je sautais, trop haut, pour retomber presque à la même place, endolori, épuisé. Le monstre revint sur moi et me prenant entre quatre crampons rouges armés de griffes au bout, sa main, fit observer Jacques. Sa main, si vous voulez. Il me lança brutalement plus loin du bord. Je ne perdis pas la tête, cependant. Dès qu'il eut le dos tourné, je recommençais. Mais si doucement cette fois que je ne fis aucun bruit. Un saut, deux sauts, quelle fatigue! Trois, quatre sauts! Le croiriez-vous, un horrible chien qu'on avait sans doute chargé de me surveiller vint, en bondissant, la gueule ouverte, se poster devant moi. Il ne me toucha pas, non, mais il se coucha les pattes et le nez en avant, tout à côté de moi, et ne me quitta plus des yeux. Oh, alors le courage me manqua. J'envoyais un adieu mental à tout ce que j'aimais. Mon pauvre cœur battait si fort que j'entendais ses soubresauts. Un brouillard couvrit mes yeux. J'étais morte. Tout à coup, un bourdonnement mystérieux me réveilla. « Qui es-tu ? » disait à mon oreille une voix étrange. « Tu n'es ni fleur, ni légume. Tu n'es pas une pierre pourtant, car tu sens mauvais. Je ne t'ai jamais vue. Tu me fais peur. » « Je ne suis qu'un pauvre poisson qui se meurt, » répondis-je, haletante. « Toi, je te connais, je te vois souvent voltiger sur les petites fleurs bleues qui poussent dans l'eau près du pont. Tu es une abeille. »« C'est vrai, tu parles là de mes... ne m'oubliez pas. »« Pauvre poisson, puis-je t'aider de quelque manière ?» Je lui expliquai mon plan d'évasion, ou plutôt j'allais le lui expliquer quand l'abeille, qui était des plus intelligentes, me marqua qu'elle avait compris toute seule. « Je me charge du chien, » dit-elle, « et bien soin de sauter tandis que je l'occupe. » Et sans attendre mes remerciements, elle alla se poser sur l'oreille de mon geôlier. Celui-ci, qui était à poil ras, sentit un chatouillement insupportable et détourna la tête en grognant. Au moment même, l'abeille s'envolait, et moi je faisais un saut désespéré qui me rapprochait considérablement de la rivière. Le chien n'eut pas le temps de s'en apercevoir. De nouveau, l'abeille était près de lui, bourdonnant dans ses yeux, lui piquant le nez, et mon farouche gardien de bondir en aboyant, tandis que je prenais mon élan de plus belle. L'abeille le tourmenta si bien qu'elle finit par accaparer toute son attention. Quand elle ne le harcelait pas avec son dard, elle voltigeait à une courte distance de lui. Parfois, elle s'arrêtait négligemment sur un coquelicot ou une fleur de trèfle incarnat, et le chien alors de s'élancer contre elle. Mais chaque fois qu'il s'élançait, j'en faisais autant à ma manière, et la distance qui me séparait de mon cours d'eau natal allait toujours se rétrécissant. La vue du pur cristal qui baignait l'herbe humide où j'étais arrivée centupla mon courage. Toute brisée que j'étais, je fis un suprême effort qui me porta non pas absolument dans l'eau, mais dans la boue. Il était temps. Le monstre qui m'avait pêché se précipitait à ma poursuite avec son chien sur les talons. Mais laissé prendre après avoir lutté de la sorte, que nenni! Avant qu'ils eussent atteint le bord, j'étais au plus profond de l'eau, couverte de boue, défaillante, exténuée, mais libre enfin. Et ce n'était pas ma vie seulement que je sauvais. Je sauvais encore, en les avertissant, celle de mes amis. Il se fit un grand bruit de nageoires. La perche fut chaleureusement félicitée. Puis plusieurs voix s'élevèrent pour rappeler que certaines ablettes avaient une fort jolie collection d'histoires que la société entendrait avec plaisir. « Vous vous trompez, » dit modestement l'ablette. « Il ne m'est jamais rien arrivé de remarquable. Je ne puis vous raconter que ce que j'ai vu, la triste fin de ce jeune homme qui se noya pour cueillir une petite fleur qu'avait admirée sa fiancée. » Je vis celle-ci montrer la fleur du doigt. Je vis le jeune homme sourire et s'élancer. J'entendis deux cris à la fois. De nouveau, l'eau jaillit sous un corps lourd et quelque chose de blanc passa rapide comme l'éclair entre le jour et moi. Puis, je vis la jolie jeune fille avec ses longs cheveux blonds glissés, portés par le courant, jusqu'à la cascade où elle disparut. Quant à lui, il resta des heures gisant à la même place avant qu'on le retrouvât. L'eau passait sur son jeune visage en soulevant sur son front les boucles brunes. Je me pris à l'aimer. Il avait l'air si paisible, si heureux, avec les petites fleurs d'azur qu'il serrait encore dans sa main. Lorsqu'on me le reprit à jamais, j'eus du chagrin. Si les pauvres enfants avaient pu seulement se dire adieu, être réunis un instant dans l'eau profonde, mais non, il était resté là, et elle avait été emportée par-dessus la cascade. N'est-ce pas cruel que la pauvrette fût morte sans avoir vu sur son visage ce sourire qui disait clairement « Ne te désole pas, je te donnerai les petites fleurs bleues tout à l'heure, quand nous nous retrouverons là-haut. » Et lui, avait-il vu seulement qu'elle avait sacrifié généreusement sa vie dans un effort désespéré pour sauver la sienne ? En aurez-vous bientôt fini avec vos réminiscences funèbres, mamie ? Dit le brochet en bâillant. À votre place, j'aurais grignoté les bottes de ce personnage, voilà tout. Le cuir est une nourriture passable quand il est de bonne qualité. J'ai bien autre chose à raconter, ma foi. Quand ce ne serait que l'histoire d'un de mes ancêtres qui avala une vache rouge, un cheval marron, qui du reste n'avait plus qu'une oreille, et un chat tigré, messieurs et mesdames, un gros chat, tout cela d'une seule bouchée. « Quel conte !» s'écrièrent les poissons d'un air incrédule. « Douteriez-vous de ma parole ?» s'écria le brochet en s'élançant parmi eux avec colère, tout prêt à faire quelques victimes. « Non, non !» répliquèrent en toute hâte les poissons effarés. « Il fit plus !» continua le brochet. « Il avala des poules aussi grandes que des ânes, et toute une rangée d'arbres à feuillage puré de pois. » Un homme et une femme aussi grands que la maison qu'ils habitaient, et la maison elle-même qui avait une porte beaucoup trop petite pour laisser passer une oie seulement, et la palissade de bois qui formait un parc à moutons. Toutes ces choses merveilleuses lui étaient tombées sur la tête un jour qu'il dormait au fond de l'eau. « Tiens, mais c'est la ferme de mon petit frère qui s'est perdu comme cela, le plus beau joujou de ce pauvre Paul !» Il l'a laissé tomber il y a 2 jours parce que les signes lui avaient fait peur. Misérable menteur, va parler de tes ancêtres, c'est toi qui as mangé la ferme, vieux scélérat. Le brochet ne fit qu'un bond sur Jacques. Tous les poissons, personne prudente s'il en fut, se dispersèrent. Et Jacques aurait peut-être partagé le sort de la vache rouge, du cheval à l'oreille cassée, etc., si le barbillon n'eût montré une grande présence d'esprit. Il le prit par le bras et lui fit remonter le courant au plus vite. « je te sauverai », lui disait-il tout bas, « mais à une condition. »«
Laquelle ? » ?»« Tu me promettras de ne plus jamais pêcher. »«
Non, non, jamais, je te le promets »,
bégaya Jacques.
« Sérieusement ?»«
Oui, sérieusement. »«
Alors tu es sauf », dit le barbillon avec solennité. C'était la pure vérité, bien que le brochet parut se rapprocher avec une vitesse vertigineuse, sa redoutable mâchoire armée de dents aiguës, toute grande ouverte et en répétant « Je te mangerai, je te mangerai !»
Jacques, il ne savait plus pourquoi lui-même, n'avait plus de crainte. Plus il remontait le courant, plus l'eau devenait chaude. Cette délicieuse tiédeur finit par l'engourdir. Un parfum de thé bouillant l'environnait et la flamme d'un bon feu pétillait entre ses paupières demi-closes. Jacques ouvrit les yeux. Il était dans son propre lit, chaudement bassiné. Sa maman se penchait sur lui, une tasse à la main. « Méchant enfant, dit-elle, que tu nous as fait peur. J'ai été avec les poissons, petite mère, dit Jacques tout contrit. Et je leur ai laissé, ne me compte pas, tout ce que j'avais dans mes poches. Tu aurais pu leur laisser pis que cela, petit tourment. Allons, bois, tâche de transpirer et ne t'excite pas. C'est que je leur ai promis de ne plus jamais retourner à la pêche, dit Jacques, qui se sentait au contraire une disposition extraordinaire à bavarder. Cela m'ennuie, mais il faudra que je tienne parole. Sois tranquille, j'y veillerai, s'écria la maman, qui paraissait fâchée, décidément. Néanmoins, elle sourit et l'embrassa tout en bordant son lit où bientôt il revit le barbillon en rêve. Mais ce n'étaient plus les hallucinations du délire. Jacques dormait. Ceci n'est que l'histoire d'une chute dans l'eau et des choses que l'enfant avait cru voir pendant le délire qui l'a suivie.